Alors le thème qui nous rassemble ce soir est un thème particulièrement important puisque le titre de cette conférence c'est « Si Dieu existe, pourquoi la souffrance et la mort ?» Pourquoi la souffrance et la mort ? Et à vrai dire, la souffrance et la mort sont deux choses terribles auxquelles nous sommes confrontés dans ce monde. Pas plus tard qu'hier encore, vous avez entendu cette tragédie qui s'est passée en Ukraine avec cet avion qui a été abattu par un missile sol-air. Et on ne sait pas vraiment qui l'a tiré, les soupçons pèsent sur un camp, puis tantôt sur l'autre, et les uns se rejettent la balle. On était avec Nathan Kimby, qui est pasteur stagiaire à Sambreville, à côté d'ici, et on discutait dans la voiture de cette tragédie, et c'est incroyable de penser que vous pouvez prendre l'avion pour vous rendre en Asie, et tout d'un coup, venu de nulle part, un missile vous touche, vous vous écrasez, vous perdez la vie. Pensez aux proches, et à toutes ces personnes qui aujourd'hui sont confrontées à cette réalité, mais comment vous devez vous sentir lorsque vous avez un ami, un camarade, un frère, une mère, un père qui était dans une telle situation. La souffrance et la mort, chers amis, c'est une réalité. Et c'est une question qui revient toujours lorsque nous commençons à parler de notre foi, nous chrétiens, à ceux qui nous entourent. J'étais encore en discussion avec une dame d'un certain âge dans la région parisienne il y a une semaine de ça, très intéressé par ce qu'on avait à lui dire, mais la principale question qui revenait toujours sur ses lèvres, c'est « Mais pourquoi toutes ces guerres ? Regardez ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, pourquoi tous ces morts ? Regardez ces gens qui s'entretuent à travers le monde, ces enfants qui meurent de faim, mais pourquoi cela ? Pourquoi est-ce que ça peut exister si Dieu lui-même existe ? » Et l'idée de Dieu, chers amis, nous confronte avec l'idée de la souffrance. Elle nous confronte aussi avec l'idée de la mort. Et en effet, comment concevoir l'existence de Dieu et en même temps voir tout ce qui se passe dans ce monde, toutes les souffrances desquelles ce monde est rempli. Si Dieu existe, pourquoi la souffrance et la mort ? La Bible traite de ce sujet d'une manière abondante, notamment dans l'histoire de Job. Job qui était un homme de bien décrit, à travers le texte biblique comme un personnage qui plaisait à Dieu de par sa conduite et son attitude, qui avait à cœur ceux qui l'entouraient, ses fils et ses filles, et il a été frappé d'une épreuve qui était probablement dirigée du... Vous savez, la Bible décrit une espèce de conciliabule dans les cieux entre le diable et Dieu, de diable qui vient demander à Dieu de toucher Job, et on voit que Dieu permet cela, et Job ne comprend pas ce qui lui arrive. Et Job va alors rentrer dans une forme de questionnement sur l'essence de la vie, sur pourquoi est-ce qu'il est frappé de la sorte, pourquoi est-ce qu'il souffre, pourquoi est-ce qu'il en est venu à perdre ses proches et sa famille. Et trois amis vont venir le rencontrer. Et alors, le livre de Job est un dialogue entre Job et ses trois amis autour de l'idée de la souffrance et de Dieu. Exactement le thème qui nous accapare ce soir. Et au chapitre 5, verset 7 du livre de Job, il y a ce verset qui m'a particulièrement arrêté par rapport au thème qui est le nôtre ce soir. Je vous lis ce verset, Job 5, verset 7. « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Et j'aimerais ce soir vous partager trois pensées sur cette souffrance humaine, trois pensées sur la relation entre Dieu, le créateur de ce monde, et la souffrance. Et la première chose que j'aimerais dire ce soir, c'est que la souffrance enveloppe le monde entier. La souffrance enveloppe le monde entier. Et en effet, qui n'est pas concerné par la souffrance ? Une souffrance qui parfois est aiguë, visible, celle que tout le monde voit. Et je vous parlais tout à l'heure de cet avion qui a été explosé en plein ciel. Ça, c'est quelque chose qui est dramatique. C'est vraiment ce qu'on appelle souffrance aujourd'hui. On voit la situation, par exemple, en Égypte. L'église d'où je viens, à Montreuil, en Île-de-France, à côté de Paris, a quelques membres égyptiens qui sont particulièrement affectés par la situation qui continue depuis des mois, voire des années, en Égypte. Pensez à la Syrie, pensez au Moyen-Orient en général, pensez aux famines, pensez à la guerre en Palestine actuellement, et toutes ces choses qui sont des souffrances évidentes. Les gens qui sont dans ces régions souffrent, meurent, sont confrontés bien plus que nous à la souffrance. Mais il y a également cette souffrance silencieuse, sourde, que parfois on a du mal à discerner quand on parle avec ceux qui sont proches de nous. Je pense par exemple à ceux qui sont frappés par la maladie, ceux qui ont un cancer qui les ronge de l'intérieur ou une maladie rare, voire orpheline dans certains cas, ceux qui passent par des moments difficiles dans leur couple, ceux pour lesquels ça s'est terminé en divorce, ceux qui viennent de perdre un être cher ou qui sont en train d'en voir un proche d'eux passer par les souffrances et les affres de la mort, une souffrance qui est silencieuse, une souffrance qui est sourde. Je ne me fais pas tellement d'illusions. Si ce soir je demandais à ce que chacun présent dans cette salle qui souffre, à qui ne souffre pas, pardon, lève la main, je ne crois pas que j'aurais beaucoup de mains levées. Je pense même que tout le monde garderait les mains baissées. Parce que la souffrance est universelle. La souffrance est partout. La souffrance nous concerne tous. Mais la grande question, c'est quelle est l'origine de cette souffrance? Et chers amis, si vous souffrez ce soir, si vous avez des difficultés dans votre vie, voilà une question importante. Pourquoi souffrons-nous? D'où vient la souffrance? Et la société moderne, la société séculière, qui rejette l'idée même de Dieu, n'a pas vraiment de réponse à cette question. Elle n'a aucune explication à l'idée de la souffrance et de la mort. Il n'y en a pas vraiment pour eux. Généralement, quand vous demandez à une personne qui ne croit pas en Dieu, une personne athée, vous lui demandez « mais pourquoi la mort ?» Généralement, la réponse, c'est « bah écoutez, parce que la mort est là. Il faut bien que la vie se termine un jour. Parce que c'est quelque chose de naturel. La mort fait partie de la vie. » Plutôt, disons que la mort marque la fin de la vie. Mais qui a une réponse à apporter à cela? La Bible nous donne une explication et même une histoire de l'entrée de la souffrance et de la mort dans le monde. Cette histoire, vous la retrouvez dans le livre de la Genèse. Vous regardez les trois premiers chapitres, vous pouvez même lire un peu plus loin, vous en verrez les conséquences. Mais, basiquement, les trois premiers chapitres de la Genèse nous relatent un monde créé par Dieu, parfait, bon, dans lequel la mort n'existait pas, la souffrance n'existait pas. Dieu a créé l'homme et la femme et les a placés au centre d'un jardin. Voilà ce que raconte le texte biblique. Un homme et une femme parfaites, pour lesquels la souffrance n'était pas d'actualité. Autour d'eux, une création magnifique, avec des arbres, avec des fleuves, avec toutes sortes de choses qui embellissaient cette terre, des animaux en grand nombre, eux aussi absolument parfaits, n'étant pas affectés par quelque souffrance que ce soit, quelque mort que ce soit. En deux mots, le paradis parfait. Voilà ce que Dieu a créé au commencement. Mais au milieu de ce jardin se trouvait un arbre avec un fruit. Un fruit qui est appelé dans la Bible l'arbre, un fruit qui est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit à l'homme, tu pourras manger de tout ce que tu veux dans le jardin. Tu pourras goûter de tous les arbres, manger de tous les fruits. Tout ce que tu pourras y trouver, tu pourras en manger. Mais cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Peut-être connaissez-vous déjà la suite. Le diable, prenant la forme d'un serpent, est venu dans ce jardin, est venu parler à la femme dans un premier temps. L'homme était bien sûr à côté d'elle. Et il a tenté la femme en lui expliquant que ça serait une très bonne chose pour elle de manger ce fruit, en lui expliquant que notamment elle serait l'égale de Dieu. Et la femme en a mangé, l'homme qui était à côté et qui l'a laissé faire en a mangé aussi. Et à ce moment-là, la souffrance est rentrée dans le monde et la mort. Et vous le voyez immédiatement dans le reste du récit, puisque la suite de ce texte nous montre un certain nombre de généalogies, de longues généalogies, à chaque fois ponctuées par « il vécut tant d'années » et il ne fut plus parce qu'il fut trouvé mort. La mort est rentrée dans le monde par l'acte d'un homme, un seul homme qui a été à l'encontre de l'ordre de Dieu. Et la Bible tout entière nous rapporte que cet homme était en quelque sorte un représentant de toute l'humanité. Et dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 12, vous avez ce verset qui dit « comme par un seul homme, Adam, la mort est rentrée dans le monde, le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, tous les êtres humains, parce que tous ont péché. » Lorsque Adam a péché, il a fait rentrer un principe actif dans ce monde qui conduit tous les hommes à pécher, et à cause du péché, à cause de la transgression de l'ordre de Dieu, ne pas faire ce que Dieu veut, la souffrance est rentrée dans le monde, la mort est rentrée dans le monde. Et voilà la raison pour laquelle, chers amis, nous souffrons, je souffre, vous souffrez à cause de la désobéissance à Dieu, ce que la Bible appelle le péché. Voilà l'explication pour laquelle la souffrance enveloppe le monde entier. Voilà ce que Dieu nous dit dans la Bible au sujet de cette souffrance qui nous enveloppe, qui vous enveloppe. Elle est la conséquence du péché. La deuxième chose que j'aimerais relever ce soir, c'est que la souffrance et la mort nous adressent un message. La souffrance et la mort nous adressent un message. Et je cite encore le livre de Job, Job chapitre 36, verset 15. « Dieu délivre le malheureux de son malheur, et c'est par la souffrance qu'il lui parle. » Et ça peut paraître paradoxal, en effet, de savoir que la souffrance est un moyen par lequel Dieu parle au monde. Ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est que la souffrance est le moyen par lequel Dieu vous parle. Un auteur bien connu qui s'appelle C.S. Lewis, un auteur anglais, a dit que la souffrance est le mégaphone de Dieu par lequel il parle à un monde engourdi. Alors le mégaphone en France, on connaît bien puisqu'on est les spécialistes mondiales de la grève, n'est-ce pas ? Et lorsque des grèves éclatent en France, vous avez toujours deux ou trois personnes qui circulent en avant du cortège avec un mégaphone monté sur un char et qui crient des slogans que tout le monde répète, généralement des revendications sociales. Nous sommes spécialistes de cela dans notre beau pays qui est la France. Mais ici, C.S. Lewis nous dit que le mégaphone entre les mains de Dieu est la souffrance. Comme si Dieu nous parlait et on n'entendait pas. Et à un moment donné, il a besoin de parler plus fort, tellement fort pour qu'on entende, qu'il doit prendre quelque chose qui fasse porter sa voix. Comme si la souffrance nous adressait un message de Dieu directement à nous d'une manière extrêmement forte. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire exactement au travers de la souffrance ? Eh bien, je crois beaucoup de choses, parmi lesquelles ceci. Par exemple, la vie est courte et elle a une fin. La vie va se finir. Et peut-être vous êtes ici ce soir et vous vous dites, oui, notre vie va tous finir, mais ça paraît évident, mais on n'y pense pas si souvent que cela. Un philosophe français qui s'appelle Blaise Pascal a dit que l'homme, ne pouvant triompher de la mort, s'est efforcé de ne plus y penser. Et la mort, vous savez, elle nous fait peur. La Bible la décrit comme une ennemie. Et bien valeureux celui qui pense à aller l'affronter sans aucune crainte. Je crois que même les gens les plus désespérés, qui sont proches du suicide, au moment même de passer à l'acte, éprouvent quand même une certaine appréhension. Parce que la mort n'est pas quelque chose que l'homme souhaite au profond de son âme. Et la vie est courte, et elle a une fin. Vous savez, les statistiques, politiques ou autres, les sondages et toutes ces sortes de choses avec des nombreux pourcentages polluent notre société. Mais si vous voulez une statistique parfaite, une statistique qui ne va pas vous décevoir, avec un chiffre très clair, c'est que 100% des hommes et des femmes vont mourir. 100% d'entre vous, ce soir, chers amis, vous allez mourir. Peut-être pour certains d'entre vous, ça sera après de nombreuses années. Je vous le souhaite. Pour d'autres, peut-être, ça sera en traversant la rue. Tout à l'heure, lorsque vous sortirez de ce bâtiment, qu'une voiture vous fauchera. Pour d'autres, ça sera peut-être un simple arrêt cardiaque, comme on le voit parfois sur les stades de football où ces joueurs professionnels, musclés, bien entraînés, en bonne santé, tout d'un coup s'écroulent parce qu'ils ont été foudroyés par la mort frappant d'une manière invisible. La grande majorité des hommes et des femmes déploient tous leurs efforts pour ne pas penser à la mort, mais la souffrance est un rappel que notre vie a une fin, nous avons une échéance, vous pouvez profiter de la vie autant que vous le souhaitez. À un moment donné, il est réservé aux hommes et aux femmes de mourir une seule fois. Et la grande question que j'aimerais vous adresser ce soir, c'est êtes-vous prêt, es-tu prêt à rencontrer ton Créateur ? La souffrance nous dit encore que la mort peut intervenir à tout moment. J'avais un ami quand j'étais jeune qui s'appelait Karunga. Vous savez, j'ai pas eu une vie facile, c'est pas le lieu ce soir de vous raconter ma vie. Et j'ai eu une vie assez mouvementée. Et mon ami Karunga, quand j'avais 15 ans, était reconnu dans ma ville comme étant quelqu'un de particulièrement fort. Il était un leader. Tous les jeunes le suivaient, pas forcément pour les bonnes choses d'ailleurs. Tout le monde le trouvait beau et magnifique. C'était un beau garçon, très costaud, très grand. Et c'était quelqu'un qui courait très vite, on le respectait tous, c'était un modèle qu'on aimait et qu'on appréciait. Un jour, ce Karunga, du haut de ses 15 ans, s'est suicidé en sautant de sa chambre qui était au dernier étage d'une de ses tours, les bâtiments HLM, dans le coin où j'habite à Paris. Ça a traumatisé toute ma ville. Quelques mois plus tard, un autre leader de ce type, quelqu'un qui s'appelait Alexandre, s'est lui aussi suicidé. Et d'autres sont morts par overdose, très jeunes. Ça m'a beaucoup marqué, vous savez. Quand vous avez des personnes jeunes autour de vous, qui meurent, ça vous rappelle qu'elle peut intervenir à tout moment. Je pense à cette famille de chrétiens que je connais en France, qui récemment ont perdu leur petit bébé. La souffrance et la mort n'est pas réservée qu'aux personnes arrivées au terme de leur vie, au bout de 80 ou 90 années ou plus encore. La souffrance et la mort peuvent vous saisir et vous envelopper à tout moment, même pour les plus petits d'entre nous, même pour les plus faibles. La réalité, c'est que la souffrance et la mort peuvent intervenir à tout moment. La souffrance nous rappelle aussi le témoignage de notre corruption. Peut-être pour certains d'entre nous, nous nous sentons en bonne santé, mais pour d'autres, les années passent et nous voyons nos corps être frappés par la vieillesse. Pire, nous voyons ceux qui sont chers à nos yeux, ceux qui sont dans notre entourage, nous les voyons partir et nous nous disons « À quand notre tour ?» J'ai une grand-mère, elle a plus de 90 ans, vous savez. J'ai été la voir avant de venir ici et je lui ai demandé comment elle allait. Elle m'a dit « Oh bah, comme ci, comme ça, j'attends que ça vienne. » « Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends, mamie ?» « J'attends la mort. » Elle sait. C'est pour bientôt. Elle est beaucoup plus proche de la fin de sa vie que du commencement. Et elle sait bien que la souffrance qu'elle ressent dans le bas du dos, ou les problèmes d'yeux qu'elle a, ces choses-là qui l'entretiennent tous les jours, en quelque sorte, sont un rappel de sa déchéance et de sa corruption, et lui rappellent que sa vie a une fin. Et la souffrance, mes amis, la souffrance est une proclamation que ce monde ne peut pas nous satisfaire tel qu'il est. La souffrance, c'est comme un caillou dans ta chaussure. Tu peux pas marcher correctement avec ça. Tu peux pas vivre correctement si tu souffres. Ce monde ne nous satisfait pas parce qu'on souffre. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas créé pour souffrir. On n'est pas né pour cela. C'est inconfortable. Il est logique que nous cherchions quelque chose d'autre. Et Dieu a en vue quelque chose pour l'homme, quelque chose de meilleur que ce que nous voyons, quelque chose de meilleur que ce que nous expérimentons ici. Voilà ce que la souffrance nous rappelle. Dieu a un plan merveilleux pour ceux qui se confient en lui. Dieu n'a pas voulu cette souffrance pour l'homme. Elle est la conséquence de la désobéissance de l'homme. Et chaque fois que vous expérimentez la souffrance, quelle qu'elle soit, c'est un rappel que Dieu a quelque chose de meilleur en vue pour vous. C'est une offre qui est faite. La souffrance est un rappel que Dieu a un plan merveilleux pour ceux qui se confient en lui. Et ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais vous savez, la souffrance, c'est finalement un avant-goût de ce qu'il est possible d'expérimenter pour l'éternité. À vrai dire, cette terre est en quelque sorte une antichambre de ce qui se passera après votre mort. Car la Bible dit qu'il est réservé aux hommes et aux femmes de mourir une seule fois. Mais après quoi vient un jugement. Sur cette terre, il est possible d'expérimenter de bonnes choses. Vous souffrez tous. Personne ne me contredira. Mais avouez aussi que vous avez tous expérimenté dans votre vie, ne serait-ce que quelques petits instants de bonheur, telle une petite goutte qui fuit de votre robinet. Peut-être pour d'autres, le bonheur est quelque chose que vous goûtez plus pleinement. On n'est pas tous égaux dans ce monde par rapport à cela. Chacun a sa situation, chacun a ses fardeaux, et chacun a sa manière de les porter. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce monde, nous pouvons expérimenter ces deux choses. Certes d'une manière imparfaite, parce que l'une et l'autre sont opposables, comme l'huile et l'eau, ça ne peut pas se mélanger. Vous pouvez goûter quelques instants de bonheur, mais également vous connaîtrez sur cette terre la souffrance. La grande question c'est, qu'est-ce que vous voulez expérimenter pour l'éternité ? Est-ce que vous voudriez expérimenter un bonheur éternel, parfait, absolu, quelque chose que rien ne peut corrompre, rien ne peut atteindre? Ou est-ce que vous voudriez goûter la plénitude, la quintessence, et même au-delà de la souffrance que vous goûtez et expérimentez aujourd'hui? Qu'attendez-vous exactement pour l'éternité? Voilà que la souffrance nous adresse ce message et nous place devant un choix. Quel est l'objectif de notre destinée éternelle? Où allons-nous? Où allez-vous? Voilà ce que la souffrance nous rappelle ce soir. La troisième chose, et le troisième point et dernier point que j'aimerais relever ce soir, c'est que tu peux être délivré de la souffrance et de la mort. Tu peux l'être. tu peux en être libre, réellement. Mais à vrai dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'origine de la souffrance et de la mort, c'est le péché. Et si c'est le péché, comment pouvons-nous prendre plaisir dans l'objet même qui est la source de notre souffrance, qui est la source de ma mort, de notre mort ? Combien de nos affections se focalisent sur des choses qui nous tuent ? Je pense à cette dame qui a vécu dans la rue dans laquelle j'ai grandi, la rue des chênes. Vous voyez, j'ai grandi dans une belle rue avec un bel arbre. Je cherche encore le chêne dans ma rue. Et cette brave dame, qui avait une quarantaine d'années, moi j'en avais 12 ou 13, elle était atteinte d'un cancer. C'est jeune, hein. Je m'en souviens parce que j'avais demandé à ma maman, mais qu'est-ce qu'elle a cette dame? Elle avait la tête rasée à cause de sa chimiothérapie qu'elle faisait. Alors je ne sais plus exactement à quel stade elle en était, mais elle avait un cancer des poumons. Ma maman m'avait dit, tu vois, la cigarette, Guillaume, c'est vraiment quelque chose qui te rend accro. C'est vraiment quelque chose qui te tient au corps. Parce que cette dame, elle est atteinte d'un cancer des poumons et elle continue de fumer. Et je me rappelle de cette dame, chaque fois que je la voyais, elle était assise sur son perron pour fumer. Une cigarette, et avec la cigarette qu'elle venait de fumer, elle en allumait une autre. Elle était complètement esclave. Je me souviens qu'un jour, quelqu'un lui a parlé et lui a dit « Mais pourquoi est-ce que tu continues à fumer alors que tu sais que probablement c'est ce qui est en train de te condamner ?» Et elle a répondu « Laissez-moi, j'aime ça. » Oh, ça nous choque peut-être ce soir. Mais je vais vous dire, cette dame a été franche. Parce que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, comme elle. Nous cultivons des affections. Nous les méditons. Nous les laissons enserrer notre cœur parce que nous les aimons. Et nous les cultivons parce que nous nous y complaisons. Et ce soir, Dieu nous rappelle que notre souffrance et notre mort même en est la conséquence. Et si vous ne réglez pas la question du péché dans votre vie, vous ne réglerez pas la question de la souffrance éternelle. Si vous ne réglez pas ce soir la question de vos péchés devant Dieu, vous ne pourrez jamais régler la question éternelle qui est celle de la souffrance qui nous attend tous après à cause du péché. Et la bonne nouvelle, chers amis, c'est que Dieu se soucie de notre souffrance. Dieu n'a pas en vue la souffrance de ceux qui se confient en lui. Il en a un particulier souci. Il connaît chaque aspect de votre vie. Il connaît toutes vos luttes. Il nous connaît bien mieux que nous-mêmes nous connaissons. Le prophète Jérémie dit, le cœur est tortueux et par-dessus tout, qui peut le connaître? Il dit, je suis tortueux, personne ne peut connaître mon cœur. Moi-même, je me perds dans ces détours les plus sombres. Et la réponse de Dieu, c'est, moi, je peux le connaître, dit l'Éternel. Dieu connaît votre cœur, il sonde vos reins, il connaît vos pensées, il sait exactement quelles sont vos pensées à l'instant même où je suis en train de vous parler. Il sait quand est-ce que vous vous levez, il sait quand vous pensez du mal de lui, il sait quand vous ne pensez pas à lui, il sait quand vous convoitez, il sait quand vous êtes en train de maudire votre prochain, ou vous êtes en train de vous énerver contre lui, ou peut-être vous pensez au meurtre de quelqu'un, je n'en sais rien. Dieu sait, lui. Il connaît ces choses et il a à cœur votre souffrance. Il connaît toutes vos luttes. Et ce soir, il vous propose de vous en délivrer parce qu'il a pourvu à la solution. Je vous disais tout à l'heure, et je vous citais ce verset qui dit que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde et par le péché, la mort. Il y a un autre verset de ce style qui nous dit que tous meurent en Adam. Tous, toute l'humanité. Mais la deuxième partie du verset, c'est « Tous donc aussi revivront en Christ ». En Jésus-Christ. Ce que dit ce verset, c'est que de la même manière que notre monde est frappé par la mort, par la souffrance, par la calamité qui en découle, et tout ce qui attend l'humanité, qui veut vivre dans ce plaisir-là, ce plaisir qui nous éloigne de Dieu, de la même manière que cette mort frappe l'humanité à cause du péché d'Adam, de la même manière, au travers de l'œuvre de Christ, au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, tous ceux qui croient en lui, qui se confient en lui, pourront expérimenter la délivrance de la souffrance et de la mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'œuvre de Christ? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire se confier en Christ? Jésus-Christ est venu dans le monde, envoyé par Dieu lui-même. Il est venu prendre la forme d'un homme, d'un simple homme. Et chers amis, dans un monde où la souffrance concerne tout le monde, il est bon de savoir que Dieu lui-même s'est fait homme pour expérimenter la souffrance que nous expérimentons chaque jour. Et il a souffert. Et il a marché sur cette terre. Et il s'est pris des coups. Il a éprouvé la faim. Il a éprouvé la soif. Il a éprouvé les cailloux dans les chaussures ou dans les sandales à l'époque. Il a compris la souffrance des hommes et des femmes. Il a pu avoir une compassion particulière pour eux parce qu'il a expérimenté leur quotidien en prenant la forme d'un homme. Et lui qui n'a jamais commis le moindre péché, lui qui n'a pas été impacté par cette déchéance qui est la nôtre, il a été cependant obéissant et il a été cloué sur une croix pour des péchés qu'il n'a jamais commis. Pour quels péchés, pour quelles offenses, pour quelles fautes, pour quelle désobéissance à Dieu a-t-il été cloué sur la croix? Il a été cloué sur la croix pour les péchés de gens qui ne méritaient pas d'être pardonnés. Voici le message de la bonne nouvelle, chers amis. La bonne nouvelle, c'est que si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, si vous pensez et si vous croyez et si vous croyez fermement pour vous-même que lorsque Christ est mort à la croix, il a été cloué et crucifié pour vos péchés, alors vous pouvez avoir vos péchés pardonnés. Mais il y a encore plus que cela. C'est que 3 jours après avoir été crucifié sur la croix, 3 jours après avoir rendu son dernier soupir, Jésus-Christ a été mis au tombeau et il a été, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, ressuscité d'entre les morts. Il est sorti du tombeau et il a triomphé de la mort. Et tous ceux qui croient à cette réalité peuvent avoir l'assurance d'avoir leurs péchés pardonnés et peuvent avoir l'assurance que Dieu les prendra au jour de ce jugement dont je vous parlais tout à l'heure. Avec lui, il ressuscitera avec lui et leur donnera la vie éternelle, un bonheur éternel, une félicité éternelle, une relation avec Dieu dans le paradis de Dieu qui durera pour l'éternité. Pas de faim, zéro souffrance, plus de deuil, plus de larmes, plus de mort. Et tous ceux qui nous seront chers à ce moment-là, nos frères et sœurs en Christ, seront avec nous. Est-ce que c'est ton cas? As-tu fait la paix avec Dieu? J'aimerais conclure. Dans cette salle, tout le monde souffre. Mais pour certains, cette souffrance s'arrêtera un jour et ils seront réunis avec Dieu. Tandis que pour d'autres, cette souffrance sera éternelle. Et j'aimerais te poser une question. Dans quel camp es-tu? J'aimerais qu'on prenne un temps pour réfléchir à cette réalité. Je vous propose d'incliner vos têtes maintenant. Et je vais prier. Et si quelqu'un, ce soir, veut s'approcher de Dieu et reconnaître Christ comme son Sauveur et comme son Seigneur, c'est l'occasion de le faire. Et la prière que je vais faire est en quelque sorte le modèle ou une direction qui vous permettra peut-être de vous-même confier votre vie en Jésus-Christ. Seigneur, je reconnais que je suis quelqu'un qui est par nature éloigné de toi. Je ne fais pas ce qui est bon. Et je sais que si je dois regarder à qui tu es, à ta nature et à ta perfection, je suis complètement éloigné de toi. Parce que j'ai péché contre toi. Et je me suis éloigné de toi. Et je sais que si je souffre ce soir, c'est parce que moi-même, j'ai préféré mes voies à tes voies et j'ai préféré mes choix au plan merveilleux que tu avais pour ma vie. Et je sais que tu offres la vie éternelle à ceux qui se confient en toi. Et je voudrais ce soir accepter que lorsque Christ est mort sur la croix, il est mort pour mes fautes, il est mort pour mes péchés, il a été crucifié à ma place, il a payé le prix du jugement, le prix que j'aurais dû prendre, moi. Il a pris la condamnation sur lui et il a donné sa vie pour moi. Et je voudrais ce soir reconnaître cela et accepter qu'il est mon Sauveur et mon Seigneur. Si ce soir, cette prière est la tienne et si sincèrement, tu veux t'approcher le Christ. Si ce soir tu veux être réconcilié avec Dieu et faire la paix avec lui, dans le secret de ton cœur, adresse-toi à lui de cette manière. Il ne s'agit pas de répéter les paroles mot pour mot. Il s'agit de reconnaître que tu es un pécheur et que tu ne peux pas accéder à Dieu par tes propres forces, mais que Dieu a pourvu en la personne de Jésus-Christ à cette porte ouverte dans le ciel que personne ne peut fermer. Est-ce que tu veux être réconcilié avec lui ce soir? Est-ce que tu veux le rencontrer?